Valis Serena, une série de chroniques proposées par l'association de sauvegarde de l'abbaye de Valserie. La fondation de l'abbaye de Valserie dans la seconde moitié du XIIe siècle et sa construction jusqu'en 1227. Nous avons vu dans l'épisode précédent l'origine de l'histoire de l'abbaye de Valserie avec la fondation d'une communauté religieuse prémontrée dans le village de Vivières dans l'Aisne. Ce village de Vivières se trouve à 6 km au nord de Villers-Cotterêts, dans la direction de Vic-sur-Aisne. Pour rappel, les religieux prémontrés ont une double activité. D'une part, ils vivent cloîtrés en suivant la règle de Saint-Augustin, mais également, ils servent de prêtres dans les villages. C'est cette seconde fonction qui les avait amenés à Vivières pour s'occuper de l'église. Celle-ci était fréquentée par des fidèles par suite de la présence des reliques de Sainte Clotilde, la femme de Clovis. Ce dernier a laissé un grand souvenir dans la région avec l'anecdote du vase de Soissons, qui a été mentionné dans l'émission précédente. Mais un problème se pose pour les religieux. L'église est à proximité du château du seigneur de Vivières. Actuellement, on aperçoit encore les restes d'une tour près du parvis de l'église. Les religieux sont donc gênés par le bruit et les mouvements dans le château qui empêchent le recueillement pour la prière. Heureusement, en 1148, soit un quart de siècle environ après leur arrivée à Vivières, les religieux reçoivent en donation des terres sur la commune de Queuvres qui est située à 6 km environ de Vivières. C'est Jean Leroux, seigneur de Saint-Pierre-Aigle, qui leur offre un terrain pour édifier une nouvelle abbaye. Ce terrain, isolé et dans le calme, se situe à mi-distance de Queuvres et de Saint-Pierre-Aigle. C'est une vallée verdoyante, avec des bois et une petite rivière. C'est donc un endroit idéal pour la méditation et la prière. De ce fait, les religieux nomment en latin le site Valis Serena, c'est-à-dire le Val Serein, qui deviendra plus tard Valserie. Rapidement, les religieux se mettent au travail pour la construction du nouvel édifice. Il faut bien remarquer que l'endroit est parfaitement adapté. La vallée, avec son cours d'eau et ses marécages, permettent la transformation de ceci en étang. De ce fait, les religieux, qui ne mangent pas ou très peu de viande, peuvent les exploiter pour la pisciculture. Un réseau hydraulique est aménagé pour réguler le cours d'eau, alimenter les moulins et assurer l'alimentation en eau de l'abbaye, ainsi que de l'évacuation des eaux usées. Contrairement à ce que l'on croit actuellement, le Moyen Âge maîtrisait en partie ce problème crucial. D'autre part, la région était fortement boisée et, sur le flanc de la colline, les religieux ont exploité deux carrières de pierre, de la pierre dure pour l'une et de la pierre tendre pour l'autre, ceci à quelques centaines de mètres de l'abbaye. Grâce à ces conditions matérielles, ainsi qu'aux dons de la noblesse, l'érection de l'édifice a été rapide. L'absence d'archives est compensée par l'analyse architecturale de l'édifice, du moins ce qui reste de cette époque. Le cœur de la nouvelle église et la salle capitulaire ont bien été construits dans le troisième quart du XIIe siècle, soit au maximum 1175-1180. Le reste étant achevé avant la fin de ce siècle, grâce à la puissance financière de la communauté. En plus des terres dans la vallée, les religieux ont reçu des terres sur le plateau vers Montgobert. Ceci leur a permis de faire la culture des céréales et la création de la ferme de Valserie. Celle-ci d'ailleurs est toujours visible lorsque l'on vient de la Nationale 2 vers Queuvres-Valserie par la Départementale 2. Nous ne savons pas quand les travaux se terminent, mais après la réalisation de l'église et des bâtiments conventuels, c'est-à-dire le réfectoire, le dortoir, la salle de travail, etc., c'est souvent le cloître qui est achevé en finale. Ce dernier, au centre de l'abbaye, est une allée couverte sur les quatre côtés, autour d'un jardin et d'un lavabo pour les ablutions avant les repas. Malgré sa destruction, probablement pendant les guerres de religion, nous voyons encore quelques traces des arcs des voûtes sur le mur du bâtiment oriental. D'autre part, les travaux peuvent se poursuivre pour achever les constructions annexes, des granges, des moulins, pigeonniers. C'est le cas également du mur d'enclos. Celui-ci avait une double fonction. Empêcher l'entrée dans l'abbaye pour les personnes non habilitées, mais également d'empêcher les religieux de sortir sans autorisation, ceci étant cloîtré. Une fois l'ensemble achevé, les historiens mentionnent que les reliques de Sainte Clotilde ont été amenées à Valsery. La totalité, peut-être pas, car il était courant de partager les restes des ossements. Nous avons vu précédemment qu'une cote de Sainte Clotilde avait été donnée à la collégiale Notre-Dame des Andelys dans l'Eure.
Vous écoutez Vallis Serena, une émission proposée par l'association de sauvegarde de l'abbaye de Valsery sur RVM Radio Valois-Mulsien.
Un grand événement a ensuite eu lieu en 1227. L'église a été consacrée par le roi Louis IX. Pour qu'un tel événement se produise, il faut un motif suffisant. Cette année-là, le jeune roi Louis IX, plus connu sous son futur nom de Saint-Louis, revient de Reims après son sacre qui a été effectué le 29 novembre 1226 dans la cathédrale, suivant la tradition royale, après le décès de son père Louis VIII, dit le Lion. La route royale habituelle passe par Soissons, et au cours de ce retour de Reims, Louis s'arrête à l'abbaye de Longpont. C'est une très grosse abbaye cistercienne de cet ordre, fortement développée au XIIe siècle par Saint Bernard. L'église est presque aussi grande que la cathédrale de Soissons. L'importance de cette abbaye justifie le passage du roi, et à cette occasion, l'église est consacrée. C'est une cérémonie religieuse qui officialise la fonction de ce monument. Le lendemain, c'est à Valsery que le roi arrive pour consacrer l'église. Bien évidemment, l'importance et la richesse de l'abbaye justifient le passage du roi, mais c'est assurément la présence des reliques de Sainte Clotilde qui a provoqué cet événement. Nous avons vu dans la première partie de l'histoire de Valsery et de son origine que Clotilde a laissé une trace dans l'histoire de la France et on peut dire qu'elle en a été la véritable première reine sous Clovis. En parlant de richesse de l'abbaye, un ouvrage Notre-Dame de Valsery, Entre ciel et terre, l'abbaye Prémontrée et ses dépendances, a été édité en 2021 par la Société historique de Soissons et l'Association de sauvegarde de l'abbaye, sous la direction de Nicolas Bilot qui dirige l'équipe d'Aquilon, bien connue dans la région pour ses études historiques très intéressantes. Dans cet ouvrage, Maxime Chartier a étudié les possessions de l'abbaye de cette époque. Son recensement mentionne la présence de 7 fermes, sans compter les moulins, viviers et autres domaines à la fin du XIIe siècle. Ces richesses s'expliquent par la nécessité de nourrir la communauté de façon autonome. si les religieux n'étaient pas très nombreux, quelques dizaines au plus, l'abbaye abritait également des frères converts ou frères laits. Ce n'étaient pas des religieux de cœur, ayant fait leurs vœux et affectés aux tâches spirituelles, mais des laïcs liés à un ordre religieux et affectés aux travaux manuels. Ils pouvaient être très nombreux, quelques centaines, pour travailler et exploiter les différentes fermes, mais également pour construire et entretenir les domaines de l'abbaye et l'abbaye elle-même. Certains converts, lettrés, pouvaient gérer les finances et les biens de la communauté. L'organisation et la gestion monastique ont rapidement rentabilisé ces fermes et permis la vente des surplus de production. Ceci ajouté aux autres dons financiers des nobles, ainsi que toutes les redevances encaissées par les cens, les dîmes, les revenus des paroisses, tous ces différents revenus ont véritablement enrichi la plupart des abbayes au début du XIIIe siècle. Lors des fondations des abbayes, la richesse n'est pas arrivée instantanément. Les communautés n'étaient pas toujours importantes, il fallait au minimum 12 religieux. Les dons sont arrivés progressivement et les terrains n'étaient pas tous adaptés pour la culture. Un premier travail était souvent nécessaire, essarter certaines surfaces, c'est-à-dire les débroussailler, couper les arbres pour rendre le terrain propice à la culture. D'autre part, l'assainissement et l'aménagement des marécages en étang était un travail très pénible. Il n'y avait aucun confort pour les religieux et les converts avant la construction des bâtiments, et à cette époque, la règle était très stricte au XIIe siècle. Il fallait vraiment avoir la vocation pour consacrer sa vie à Dieu. Mais au début du XIIe siècle, les conditions de vie étaient assez difficiles pour la population. L'engagement dans la vie monastique permettait, surtout pour les converts, d'avoir de quoi se nourrir et se loger, même sobrement, ainsi qu'avoir une protection contre les aléas de la vie, les guerres, les pillages, les famines. Cette description de l'abbaye de Valserie montre l'ampleur de la tâche entreprise par les religieux. Aménager les terrains pour l'implantation des constructions, l'abbaye, les fermes, les moulins, etc., dans des conditions souvent difficiles et avec un matériel rudimentaire. Ensuite, ériger les constructions avec l'extraction des pierres dans les carrières et le transport de ces pierres. L'église et les bâtiments, souvent importants, nécessitaient du savoir-faire et des ouvriers qualifiés pendant plusieurs dizaines d'années, et ceci dans plusieurs domaines, la maçonnerie et la sculpture, la charpente, la réalisation des tuiles et du pavement du sol, la ferronnerie, la peinture ainsi que les vitraux. N'oublions pas qu'au Moyen-Âge, une grande partie des églises était peinte. Dans les abbayes, la décoration était très sobre à cette époque, mais nous en voyons encore des traces dans la salle capitulaire du XIIe siècle à Valserie. Tout ceci entraîne de gros travaux, sans compter l'aménagement et la culture des terres offertes aux religieux. Après cette grande période, nous verrons, lors d'une prochaine émission, comment s'est déroulée la vie à Valserie jusqu'au milieu du XVIe siècle. À bientôt et n'hésitez pas à venir visiter l'abbaye d'avril à octobre, le samedi après-midi de 14h30 et 16h, le dimanche à 10h, 14h30 et 16h. C'est une visite guidée, une participation de 5 euros est demandée aux adultes pour aider l'association de sauvegarde et ses bénévoles à la restauration de l'édifice. Le prochain épisode concernera l'abbaye du XIIIe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle. C'était Valis Serena, une série de chroniques proposées par l'association de sauvegarde de l'abbaye de Valserie.